Bonjour à toutes et à tous. J'aime notre assemblée parce que on n'est pas dans les rituels. Et ça m'encourage, ça me fait plaisir. Le rituel religieux, alors il y en a qui en ont besoin, hein, il y en a qui ont besoin d'un cadre bien... Mais moi j'aime bien quand c'est la spontanéité qui prime, la grâce, l'amour, la miséricorde, la famille, puisque... On a encore réfléchi cette semaine, parce qu'on devait envoyer un compte-rendu, un petit compte-rendu pour le congrès CAEF. Et c'est vrai que la première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est la famille. Je pense qu'on a un état d'esprit comme celui-là. Et c'est intéressant, quoi. Aujourd'hui, on est à acte 12. Bon, je remercie Yann pour sa parole, sa prière, mais c'est toujours difficile pour moi de me sentir porte-parole, hein, parce que vous savez très bien qu'on lutte tous dans nos vies et être les porte-paroles de quelqu'un qui est saint, qui est bon et qui nous aime et qui nous veut du bien, et parfois quand on voit le filtre que nous sommes, c'est pas évident, quoi. On se sent un petit peu dépassé par la tâche. Acte 12, versets 1 à 19. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche, la prière montée de l'Église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il lui dit « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, devant l'entrée. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Ils dirent « Mais c'est son ange !» Cependant, Pierre continua à frapper, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères », puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, l'agitation ne fut pas petite parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre ? Hérode le fit chercher, mais ne le trouva pas. Il fit juger les gardes et il donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Quel texte ! Un texte qui est pas évident. Enfin, de mon point de vue, j'ai eu du mal à m'en inspirer. J'ai un peu traînaillé là-dessus. Est-ce que je fais du verset par verset? Est-ce que... Et puis, je me suis souvenu d'un prédicateur, du siècle dernier, Fernand le Grand. Qui a connu Fernand le Grand? Il y en a quelques-uns qui ont connu Fernand le Grand. Et j'ai dit, mais... J'ai retrouvé donc une de ses prédications sur ce passage, et je m'en suis largement inspiré. Bon, c'est vrai que c'est un style particulier parce qu'il fait beaucoup d'images et il image beaucoup dans ce texte, mais j'ai trouvé ça, en tout cas moi ça m'a fait du bien et je me suis dit tiens, j'ai une piste, je vais leur partager un petit peu ce texte de cette manière-là parce que ben c'est intéressant. Alors Fernand le Grand, moi pour moi, enfin pour beaucoup de prédicateurs en France, d'évangélistes, c'était, je pense, le summum, un homme qui bégayait quand il parlait, et puis dès qu'il était en chair, voilà, ça sortait tout seul. Je l'ai vu prêcher plusieurs fois, c'était un ami, hein, et je me souviens de dire, une fois, on était au temple dans le Gard, dans un temple avec à peu près 400 personnes, hein. Et voilà que M. Fernand Legrand fait un appel. Alors moi, les appels, franchement, on ferme les yeux. Moi, j'avais l'œil ouvert, je me disais, mais il est fou, un temple protestant, réformé, avec des gens qui viennent, voilà quoi. Et il fait un appel. 40 personnes se lèvent. Alors là, j'étais sidéré, quoi. Impressionné. Il avait vraiment du charisme. Alors, voilà ce texte. Socrate, un des sages, des sept sages grecs de l'Antiquité, a dit « Connais-toi toi-même ». Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'en apprends tous les jours sur moi-même, hein, et on en apprend tous les jours, sur nous-mêmes. On ne connaît pas tout de nous-mêmes. Alors, connaître les autres, déjà, c'est tellement difficile. Hein. On a quelques vagues souvenirs de notre petite enfance, mais faut dire que ça fait pas très longtemps que nous sommes sur Terre, même pour les plus âgés. Parce que qu'est-ce que c'est que 50 ans, 30, 70, 80 ans de vie sur l'échelle de l'éternité ? C'est insignifiant. Alors, pour certains philosophes, tels que Camus et Sartre, la vie n'a pas de sens, tout n'est qu'absurdité. Et c'est vrai que notre morphologie, hein, comme nous sommes faits, on dit que ça nous rapproche vaguement du singe, hein. Certains nous rapprochent des souris et d'autres même des cochons. C'est vrai, il paraît que, voilà, on a des ressemblances, hein, en tout cas physiologiques. Nous serions donc un accident, c'est-à-dire un processus accidentel de réaction chimique qui aurait abouti à ce que nous sommes. Le hasard, le temps et la nécessité, comme disait Jacques Monod. Mais, quand nous nous regardons les uns et les autres, on peut dire que le hasard nous a quand même bien fait. Il y a une symétrie, il y a des couleurs, je sais pas, il y a quand même des symétries, hein. Enfin, quand on a pris un peu de poids, c'est sûr que on se voit un peu dissymétrique, quoique. Mais quand même, on a des yeux au même endroit, le nez, les oreilles au même endroit, vous imaginez, si vous auriez une oreille là, tu vois, s'il y en a qui aurait un nez ici, vous voyez, on était tous, voilà, dans ce... Mais il y a une symétrie, il y a quelque chose qui est beau, hein. Comment serions-nous si tout serait finalement accidentel ? Il faut dire que en lisant la Bible, on s'aperçoit quand même qu'il y a un plan, il y a une symétrie, il y a quelque chose qui est conçu. On se rend compte que c'est pas hasardeux. Et derrière ce que nous considérons, nous, comme des petites existences, parce que malgré que nous soyons conçus d'une manière très complexe, notre vie, il faut le dire, nous semble insignifiante. Je sais pas toi ta vie, mais bon, tu t'engages, tu as une profession, etc. Et c'est vrai qu'au regard de l'univers, au regard de la complexité de l'univers, notre petite vie nous semble quand même insignifiante. Pourquoi nous sommes ici ce matin et nous sommes pas, je sais pas, dans une église au bout de la terre? Pourquoi ici? Et ils peuvent se poser exactement la même question, n'est-ce pas? Notre vie nous semble insignifiante. Alors c'est vrai que dans notre vie, on a pu accomplir certaines choses, on a pu aider certaines personnes, donner de l'amour à certaines personnes, à d'autres aussi. Mais finalement, quand on regarde de plus près, on se sent un petit peu insignifiant. Nous sommes finalement des êtres microscopiques, des grains de poussière. Et la planète sur laquelle nous vivons, sur laquelle nous faisons la guerre chaque jour, il faut le dire, hein, la galaxie où nous nous faisons la tête, hein, trois fois rien parfois, mais c'est un minuscule nuage qui est au milieu de l'immensité d'autres nuages, de poussière, et nous on est là au milieu. C'est quand même fou, hein. Alors des fois je me dis que ma vie, qui va se terminer, je sais pas quand, mais la Bible nous dit que c'est entre 60 et 80. Voilà, ça c'est la limite. Il y en a qui l'ont dépassé, je sais, ici, hein. Heureusement, on est content. Mais notre vie est limitée, entre 60 et 80, c'est la moyenne. Mais qu'à l'échelle des années-lumière, parce qu'il faut tout replacer dans une perspective, quand on regarde l'univers et quand on parle d'années-lumière, qu'est-ce que 80 ans? Qu'est-ce que 80 ans? Qu'est-ce que 100 ans même? On est insignifiant. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on a... Enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que j'ai eu le temps de rien faire. J'arrive à 50 ans là, j'ai l'impression que j'ai eu le temps de rien faire. Là, on a eu cette semaine le décès de Prince, chanteur. Il jouait de 27 instruments de musique. 27. Plusieurs fois, je me suis dit, je vais me mettre à la guitare. Je n'ai fait que me mettre à la guitare, hein. J'ai jamais joué, quoi. Je me dis, mais c'est quand même incroyable. Et il y a des fois, tu te dis, mais combien de livres j'aurais pu lire, combien de choses j'aurais pu faire, combien de... Vous voyez, c'est notre vie, quand même, c'est étrange, hein. Moi, je parlais avec ma belle-sœur et mon frère l'autre soir, et on parlait, quand on a la vision que notre vie est devant. T'arrives à un certain âge où ta vie, elle est plus devant, elle est derrière. Tu peux plus dire, ma vie est devant, je vais faire des projets, parce que finalement, tu t'aperçois que ben, tout est derrière. Peut-être que moi, j'arrive à 50 ans et je vois cette échéance arriver, et je commence à dire, ouais, ben, je vais avoir des projets, hein. Là, il faut que j'ai des projets parce que après, je pourrais plus en avoir. Mais c'est vrai que quand tu as ta vie qui est derrière, t'as pas du tout le même état d'esprit. Tu n'es plus dans cet état d'esprit où tu te dis, j'ai le temps. J'ai le temps. Mais quand t'es plus jeune, jusqu'à un certain moment donné, tu te dis, ben, j'ai le temps. J'aimerais bien faire ça, mais j'ai le temps. J'aimerais bien faire ceci, mais j'ai le temps. J'aimerais bien m'engager dans cette direction, mais j'ai le temps. Puis un jour, tu te retournes, tu dis, mais j'ai plus le temps, là. Et tout ce que j'avais projeté, je n'ai pas fait. C'est terrible, quand même. On est tous plus ou moins pareils, hein. En tout cas, 27 instruments de musique, il faut le faire, hein. Bon, il a été élevé certainement dans un contexte qui lui a permis de pouvoir vivre cela, c'est sûr. Mais quand même. Une passion, et il y est allé, quoi. À la mort, tout s'arrête, en tout cas pour notre petite vie, je dirais presque, allons, mangeons, buvons, hein. Finalement, je dis presque, parce que le texte d'aujourd'hui nous permet de voir finalement les choses différemment. L'acteur principal, c'est Pierre. Et Pierre, c'est vous et moi. C'est l'être humain en général. Pierre, comme chacun de nous, a un ennemi qui n'a jamais vu ni rencontré. Hérode. Il a jamais vu. C'est à cause d'Hérode que Pierre est en prison. Hérode, c'est celui qui semble tirer les ficelles. Il contrôle les choses. C'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui a des serviteurs qui sont à son service. La Bible nous apprend que chacun de nous, vous et moi, nous avons aussi un ennemi commun qui a du pouvoir et des serviteurs qui lui obéissent en vue de nous faire devenir, bon gré mal gré, des serviteurs, ses sujets, ses objets. La Bible nous apprend qu'il y a dans le monde ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. C'est un mot bizarre, c'est une drôle d'expression. Tu dirais ça aux gens dans la rue, ils te prendraient pour un fou. Mais le mystère de l'iniquité. Pourtant, chaque jour, les gens qui nous prendraient pour des fous expérimentent ce mystère d'iniquité. Chaque jour. D'une manière ou d'une autre, il semblerait qu'il y a quelqu'un dans l'ombre qui trouve, je dirais, un malin plaisir à détruire, à dénaturer, à diviser, à écraser, à démolir, à décourager, à tuer. Et la liste, elle pourrait être très longue. Il semblerait qu'il y ait dans l'ombre quelqu'un qui tire les ficelles de notre société. Alors, on ne tombe pas dans les théories de complot, hein, s'il vous plaît, mais parfois, on dirait que dans nos vies aussi, il y a quelqu'un qui tire des ficelles. Il t'arrive certaines choses dans ta vie et tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi je prends une direction, j'essaye de m'y tenir, j'essaye de... Et puis, il t'arrive un truc, et puis un découragement, et puis quelque chose qui tombe devant, une embûche, un truc qui te permet de pas aller, en tout cas qui te permet pas d'aller jusqu'au bout. Pourquoi ? On dirait qu'il y a quelqu'un qui tient les ficelles. Et que dès que ça commence à aller bien, ben, il y a quelque chose qui arrive et puis que ça va mal, tout à coup. Alors en général, ce qui est caché est plus important que ce qui se voit. Par exemple, la partie visible d'un objet, telle qu'une montre, par exemple, ou une voiture, ne lui permet pas de fonctionner. C'est ce qui est à l'intérieur qui lui permet de fonctionner. Ce qui est visible, bon, ça se voit, mais c'est ce qui est à l'intérieur qui permet à ces choses-là de fonctionner. Lorsqu'on regarde un film au cinéma, il y a parfois une vingtaine d'acteurs visibles. 15, 20, des fois plus, mais en moyenne. Mais il y a des centaines de personnes, voire des milliers d'heures de travail, des millions d'euros, voire des millions de dollars qui sont dépensés. J'ai un ami qui a la comptabilité à la Warner Bros. À Los Angeles. Je peux vous dire qu'il brasse des millions et des millions de dollars. Derrière le mal qui règne dans ce monde, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui dirige, en tout cas qui s'efforce de diriger, qui organise, qui orchestre. Et la Bible nous révèle que cette personne, c'est Satan. On en parle peu. C'est l'ennemi de l'homme. C'est l'ennemi de l'homme et de la femme de Dieu. C'est l'ennemi de... C'est ton ennemi et mon ennemi quand tu veux marcher avec Dieu. Son objectif, ben c'est simplement de mettre les hommes en enfer, d'abord dans cette vie, et après dans la suivante. La Bible nous dit qu'il est le meurtrier dès le commencement, et Hérode, finalement, dans ce texte, ben il le représente très bien. Fils d'assassin, assassin lui-même, il est à la tête d'une armée parfaitement équipée qui a le pouvoir d'enfermer les gens dans les prisons, de les persécuter, de les tuer, de les condamner, les garde, hop, exécuté. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un leurre. Pour ceux qui ont fait de la pêche, pour attraper une souris, il faut un leurre. Il faut du fromage, il faut du gruyère, hein, du vrai, pas du faux. Hein. Le faux, ça marche pas. Il faut un leurre. Pour attraper un poisson, il faut un ver. Un ver bien vivant. Alors, ce qui est caché, comme je vous disais, c'est ce qui est le plus important. Le plus important élément du mécanisme, du dispositif, finalement, il y a la tapette à souris, et puis il y a l'hameçon, avec lequel on met le ver. Et le plus important, c'est que finalement, c'est ce qui est mis dessus. C'est pas l'hameçon qui est important, c'est pas la tapette à souris qui est importante. C'est le gruyère, c'est le ver. Parce que s'il n'y a pas de ver, l'hameçon, le poisson, il s'en fiche. Combien de souris et de poissons se font avoir ? Et combien d'entre nous se font avoir aussi par des dispositifs semblables ? Il faut le dire. Pensez par exemple... Quelqu'un qui pense que gagner beaucoup d'argent rend heureux pour s'apercevoir ensuite qu'il perd le sommeil. Vous savez la fable de la fontaine, où le savetier soudain devenu riche en a perdu sa joie et ses chansons, il s'est écrié « Rendez-moi mes chansons !»« Rendez-moi mes chansons !» Combien d'hommes et de femmes ne diront-ils pas « Rendez-moi mes rêves !» Mes rêves d'enfant, par exemple. Pensez que le sexe, l'amour libre, le libertinage rendrait heureux alors que Don Juan lui-même était triste. Il était triste. Aucun bonheur à devenir le jouet de ses passions. Se moquer de la vertu la rend petit à petit inaccessible. Alfred Musset a écrit « Le cœur de l'homme vierge est un vase profond. Lorsque la première eau qu'on y verse est impure, la mer y passerait sans laver la souillure, car l'abîme est immense et la tâche est au fond. Le fils prodigue, il pensait être heureux en quittant la maison de son père. Il pensait trouver le bonheur. Il s'est trompé. En prison, on rencontre des gens qui ont menti. Mais on rencontre aussi des gens à qui on a menti. On leur a menti. On leur a fait croire qu'en faisant un braquage, ils auraient de l'argent pour vivre sous les cocotiers. Ils croyaient qu'en faisant des trafics, ils allaient pouvoir vivre une vie paisible, être heureux, être dans le bonheur. On leur a menti. On leur a menti. On leur a pas dit qu'ils allaient se retrouver à la maison d'arrêt de Grasse, dans une cellule de 9 mètres carrés à 4. Ils se sont fait leurrer. Ils ont attrapé le ver ou le gruyère. Mes amis d'enfance pensaient trouver le paradis au bout d'une seringue. Ils ont trouvé l'enfer. Pareil pour ceux qui ont cru que le bonheur se trouvait dans les apéritifs au bar ou dans leur jardin au bord de la piscine. Un jour, raconte l'histoire d'un jour, un homme s'est présenté devant un bistrot. Vous savez le bistrot qui est à Saint-Jacques, vous connaissez le bistrot des marronniers? Qu'à 11h, minuit, 1h du matin, il est ouvert. Et je vois ces hommes se garer, descendre de leur camion après le boulot, reprendre leur camion je ne sais pas à quelle heure, et ils vont boire l'apéro. Et un jour, un homme s'est présenté à la porte d'un bar comme ça. Il avait un mètre en poche. Il a commencé à mesurer la porte à haute voix. 2 mètres de haut, 83 centimètres de large. Et puis il a recommencé. 2 mètres de haut, 83 centimètres de large. Puis les gens ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Ils sont allés lui poser la question, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites là? Et puis il a répété plusieurs fois. 2 mètres de haut, 83 centimètres de large. Et l'homme s'est adressé aux gens qui étaient là. Et il a dit, voyez cette porte-là, de bistrot? Elle n'a que 2 mètres de haut et que 83 centimètres de large. C'est pas grand, hein? J'avais une maison, elle est passée par cette porte. J'avais des terres, elles sont passées par cette porte. J'avais des beaux meubles, ils sont passés par cette porte. Tous passés, sans les démonter. J'avais des économies, elles sont passées par cette porte. Une bonne santé? Et les médecins m'ont dit, mais votre santé, elle est passée par la porte. J'avais une bonne réputation, on pouvait me faire confiance, et aujourd'hui on dit de moi, c'est un ivrogne. Ma réputation, ben, elle est passée par cette porte. J'avais un cœur sensible, je ne pouvais pas, je ne supportais pas de voir ma femme et mes enfants pleurer, mais combien de fois je les ai fait pleurer. J'avais un cerveau, j'en étais fier. Combien de fois ne suis-je pas sorti de cette porte, par cette porte, sans savoir ce que je faisais. J'avais une conscience, je savais ce qui était bien, je savais ce qui était mal, je savais ce qui était juste, je savais ce que c'était en montrant le bon exemple. Mais combien de fois je suis passé par cette porte en montrant le mauvais exemple? Mon bonheur est passé par cette porte. Souvent je suis sorti en chantant, mais j'étais malheureux. Les gens, ils sortent du bar, ils chantent, hein, ils rigolent et tout, mais en fait, ils sont malheureux. Et puis, se tournant alors vers la porte, et avec une sorte de hargne, il a dit, « Porte de bistrot, plus jamais je ne te franchirai. » Et les gens qui étaient là, ils ont dit, « Mais il a raison. » Il a raison. Mais dès qu'il était parti, ben, ils ont commandé la prochaine tournée. On nous a dit que pour être heureux, on devait avoir un peu de religion aussi. On devait apprendre certaines pratiques, comme aller à l'église. Mais on ne nous a pas dit que ce serait comme la vaccination, où on inocule petit à petit la maladie pour être vacciné contre la maladie. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on nous a inoculé parfois un petit peu de religion, et maintenant on est comme vacciné contre l'évangile. Vacciné. On a trop pris la tête à certaines personnes, et puis du coup, elles veulent plus en entendre parler. Tu leur parles de l'évangile, elles en veulent plus. On leur a inoculé le vaccin contre la maladie, mais qui te rend encore plus malade en fait. Peut-être qu'on est vacciné contre l'évangile, peut-être pas contre la conversion et le salut, hein, quoique, mais contre l'amour, la patience envers les frères et sœurs, malgré nos efforts. On n'a pas de certitude, on n'a pas de promesse. On ne croit pas qu'on est sauvé. On n'a aucune assurance devant la mort, devant l'éternité. Au verset 4 que nous avons lu, il est écrit qu'il y avait 4 escouades de 4 soldats. 4 fois 4, 16. Au verset 6, il y avait 2 chaînes qui liaient Pierre et 2 soldats qui le gardaient. Au verset 10, il y avait une première porte, une première garde, une deuxième porte, une deuxième garde. Et il y avait encore la porte de la ville. Donc je veux dire, c'était quand même pas évident de sortir de là. C'est-à-dire que Pierre n'avait aucune chance de s'en sortir. Pour lui, c'était impossible. Et nous, pas davantage. On ne peut pas se sortir d'une situation comme ça. Notre situation spirituelle, elle est 1000 fois pire que celle de Pierre. C'est vrai. Elle est des millions de fois pire que celle de Pierre. Et puis, du coup, l'Évangile nous rapporte l'histoire d'un homme qui était pris dans une, je ne sais pas si vous avez lu ce texte, par une légion de démons. Impossible pour lui de s'en sortir. Il avait certainement des milliers de défauts comme nous en avons aussi, des milliers de passions et des milliers de gardiens aussi qui nous empêchent de sortir de ça. Mais il y a plus grave. C'est que cet homme que Pierre représente, il dort. Le temps passe, les hommes passent et on dort. En fait, la plupart des gens autour de nous dorment. Inconscient que l'heure du moment où il va falloir du moment où ils vont se retrouver tout simplement devant Dieu, ils sont inconscients de l'heure, ils sont inconscients du moment où ça va arriver. Peut-être qu'il reste qu'une nuit, peut-être qu'il reste qu'une heure, peut-être que quelques heures. Ils dorment. L'horloge, elle est là, elle tourne. Les juges, déjà, ils commencent à ne plus dormir. Et puis du coup, ils se retrouvent accusés. Dans une heure, ils vont être traînés là où le recours de la grâce n'est plus possible. Combien de nos contemporains sont en train de rêver d'un palais alors qu'ils sont en route pour eux ? On pourrait leur crier comme le prophète Amos, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » ou comme le prophète Osée, « Il est temps de chercher l'Éternel ». Alors comme le messager dont il est question ici, Pierre, peut-être que ça peut vous heurter, un messager de Dieu est venu vers Pierre, il a commencé par le réveiller. Il n'a pas commencé par endormir les gardes, parce que ça, il n'a pas commencé par ouvrir les portes ou à faire tomber les chaînes. Il a commencé par réveiller Pierre. Ça, c'est la première action de l'ange. Il a commencé par le réveiller. Notre salut ne commence pas par notre entourage. Notre problème numéro un, c'est pas les autres. C'est pas les autres. Notre problème numéro un, c'est pas les chaînes. C'est pas ceux qui nous tirent vers le bas. Le problème numéro un, c'est nous-mêmes. C'est d'abord nous. Les autres peuvent nous créer des problèmes. Mais nous sommes nous-mêmes. Nous-mêmes, le premier et le plus grand problème. Si bien qu'avant de s'en prendre aux autres, Dieu d'abord doit s'en prendre à nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous prenions conscience du lieu et de l'état dans lequel nous sommes. Que quelque part, il nous réveille de la fausse sécurité dans laquelle nous sommes. Que nous prenions conscience de notre état. C'est toujours là que Dieu veut amener quelqu'un, parce que l'homme ne peut pas désirer être libéré ou être sauvé sans savoir d'abord qu'il est perdu. C'est pas possible. Tu ne peux pas désirer être libéré si tu ne sais pas que tu es emprisonné. Peut-être que c'est une piste pour l'évangélisation. Combien de gens sont emprisonnés autour de nous ? Et ici, le messager de Dieu, c'est un ange. Mais quand il s'agit de nous, il nous envoie l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice, de jugement. Peut-être que les gens ont besoin d'être tirés, d'être bousculés, peut-être de leurs rêves, s'entendre dire que tout va mal, s'éveiller en sursaut comme Pierre, se découvrir enchaîné, en prison, avec 2 soldats, 2 chaînes, 2 portes. C'est vrai que tu te réveilles dans cet état-là. Tu vois, tu peux t'endormir de sommeil quand tu es emprisonné, mais quand tu te réveilles et que tu vois l'état où tu es, c'est terrible. C'est terrible. Et au milieu du verset 7, voici un ange du Seigneur survint, et je souligne ce qui suit, et une lumière brilla dans la prison. Une lumière brille dans la prison. C'est-à-dire qu'au sein d'une situation sans espoir, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a une présence qui va tout changer. Et c'est vrai que quand Jésus s'approche de quelqu'un et qu'il entre dans sa vie, rien n'est jamais pareil. Rien. Avant que les chaînes tombent, avant que les portes s'ouvrent, il y avait quelqu'un de plus dans la prison. Vous savez, comme ces trois jeunes gens dans le livre de Daniel qui sont jetés dans la fournaise, Nebuchadnezzar a regardé, et en plus des trois, il y avait un quatrième qui avait l'aspect d'un fils de Dieu. Il y avait quelqu'un de plus dans la prison. Comment le messager est entré dans la prison? On ne sait pas. Comment Jésus rentre dans une vie? On ne sait pas. Comment les chaînes sont tombées toutes seules? Comment Jésus-Christ fait tomber les chaînes de nos passions? On ne sait pas. Mais d'abord, il est là. Peut-être que les gens qui viennent au Seigneur vont avoir du temps, il va y avoir du temps où il y a certaines chaînes de leur vie qui vont avoir besoin de se briser. Nous, on attend parce que les gens font une confession de foi ou parce qu'ils se font baptiser, que ça y est, ils sont à l'église, tout est réglé, c'est des bons chrétiens qui viennent et tout va bien. Non, non mes amis, ça ne se passe pas comme ça. Vous pouvez avoir des gens qui se convertissent vraiment, qui a cette personne dans leur vie, que Jésus est entré dans leur vie. Il est bien là, et pourtant elles font n'importe quoi. Et tu te dis, mais pourquoi elles font ça? Mais pourtant Jésus est bien dans leur vie. Mais pourquoi elles prennent ces décisions? Mais Jésus, bah ils sont pas convertis. Non, c'est pas possible, il est pas converti. C'est pas possible. Mais ça, on sait pas. Ça, c'est nous qu'on... On a notre petite case, nos boîtes dans lesquelles on place les gens, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Oh, il a quitté l'église, il est plus converti. Il n'était pas converti en fait. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Peut-être que Dieu est en train de lui parler. Peut-être qu'il lui parle plus à lui qu'à nous qui sommes là. C'est ça qui est incroyable avec Dieu. On nous a inoculé de la religion, vous savez. Le vaccin. Comment Jésus-Christ affranchit ceux qui se tournent vers lui et leur ouvre les portes de la liberté? Je sais que c'est vrai, mais ne me demandez pas de l'expliquer, je ne pourrai pas. Je ne sais pas. Psychologue, éducateur, ils ne comprennent rien aux toxicomanes qui se tournent vers Jésus-Christ, hein, il ne faut pas rêver. Hein. Ils ne comprennent rien, ils sont dépassés. Hein. La réalité, c'est que des centaines de jeunes que rien ni personne ne peut sauver, condamnés par la médecine, ils se tournent vers Jésus-Christ. Ils sont libérés des effets de la drogue. Tu peux l'expliquer? Moi, je peux pas. Et je sais que c'est vrai. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais je peux pas l'expliquer. On a même affaire parfois en prison de gens qui veulent pas sortir. Parce qu'ils étudient, ils lisent la Bible, ils ont une relation avec Dieu, ils témoignent, ils veulent pas sortir. Ils disent, putain, je vais sortir, j'ai pas envie de sortir. Ah oh là là, j'ai pas envie de sortir. Oh, j'ai passé des diplômes. C'est un truc de fou quand même, ça. Qui veulent pas sortir. Il y en a d'autres, ils veulent sortir. Il y en a d'autres, ils rentrent avec les larmes, ils ressortent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils rentrent avec le sourire. Ils se sont vengés entre deux. Et puis ils viennent au culte. Je comprends pas. Par contre, ce que je sais, on peut pas expliquer ce qui se passe, hein. C'est que pour me sortir de moi-même, de mes péchés, de mes prisons, de ma condamnation, Jésus-Christ a dû y rentrer. Parce que dans notre vie, il y a un moment plus important que tous les autres. Plus important que le jour de nos fiançailles, je dirais plus important que le jour de notre mariage. Peut-être plus important que le jour où naissent nos enfants. Même plus important que le jour de notre mort. C'est celui où Jésus-Christ croise notre chemin et où nous entendons son appel. Il n'y a pas de jour plus important que celui-là. Il y a des gens qui ont fait cette expérience et puis qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y avait des problèmes psychologiques que ni vous ni moi connaissez. Moi, j'ai appris, j'ai un ami qui est pasteur, il vient d'apprendre, après le divorce de sa fille, qu'elle a vécu un abus sexuel quand elle était gamine. Il n'était pas au courant. Et certainement par un homme d'église. Elle ne veut pas aller à l'église, elle n'est pas convertie. Tu parles. Remarquez aussi que si le messager a dit à Pierre « Lève-toi promptement », il lui a dit aussi « Mets ta ceinture ». Puis il lui a dit « Enfile tes sandales ». Et il lui a même dit « Enveloppe-toi de ton manteau ». Il n'y a pas d'instant à perdre. Alors finalement, il ne nous reste plus qu'à dire, selon le texte, « Seigneur, je me lève et je viens. Seigneur, je me lève et je viens. Lève-toi et viens. » C'est ce qu'il a dit. « Lève-toi. Allez, viens. » Peut-être qu'on a besoin de faire le même pas, de me lever et de venir. Peut-être qu'on est emprisonné dans quelque chose. Peut-être qu'on lutte nous-mêmes avec certaines choses. Mais on peut toujours aller à Jésus. Parce qu'avant que les chaînes tombent, d'abord, il faut qu'il soit là. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce texte. Merci de nous rappeler aussi, au travers de ce texte, qu'il faut d'abord que tu sois dans nos vies pour que les choses changent. Et que les choses ne changent pas en un jour. Merci pour ta patience. Ta patience envers moi d'abord. Et je sais que tu es tellement miséricordieux, que tu es tellement rempli de patience. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies, nos chaînes, nos écueils. Donne-nous de lever nos têtes, de fixer nos regards sur toi. Redonne-nous l'enthousiasme si nous l'avons perdu. Redonne-nous la joie si nous sommes dans la tristesse. Redonne-nous la foi si nous en manquons, Seigneur. Renouvelle notre regard sur toi, sur ta personne. Renouvelle notre dépendance à toi. Et merci pour mes frères et sœurs. Nous luttons tous, mais nous t'aimons. Et nous sommes tellement heureux de te connaître. Tellement heureux que tu t'es fait connaître à nous. Et nous voulons simplement te dire tous ensemble merci. Amen.